Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Et si la danse était le reflet non seulement de la création et de l'émotion, mais aussi de l'identité, de l'histoire, de la résilience d'un peuple? Notre invité d'aujourd'hui ne se pose sans doute plus la question. Nul doute qu'il y réponde positivement et son dernier film en est un exemple éclatant. En filmant la beauté et la grâce des gestes des danseuses du Ballet Royal du Cambodge, en recueillant le témoignage des jeunes artistes et de leurs professeurs plus expérimentés, en les accompagnant pendant les répétitions, en les filmant sur scène ou dans les coulisses des représentations à Phnom Penh ou en tournée, le réalisateur Xavier Delauzanne donne corps à la culture, mais raconte aussi l'histoire et l'évolution d'un royaume ancestral profondément meurtri par un des pires génocides du XXe siècle. Un film aussi instructif qu'émouvant, dans lequel on croise un certain Auguste Rodin, ébloui par les danseuses, un siècle avant que leur art ne se retrouve inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La beauté du geste, le nouveau film de Xavier Delauzanne, est depuis hier sur les écrans français, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Xavier Delauzanne.
Bonjour.
C'est votre deuxième film autour du Cambodge. D'où vient votre intérêt et même votre attachement, je pense, pour ce pays?
J'ai passé du temps en Asie du Sud-Est dans les années 2000. J'ai habité 3 ans au Vietnam. Et après, j'ai fait des missions entre le Vietnam et le Cambodge et ensuite plus largement en Asie du Sud-Est. Et je suis régulièrement passé au Cambodge, et c'est un pays qui est très attachant, et j'aime y être.
Est-ce que, comme on peut parler parfois d'un esprit français, il y a un esprit cambodgien?
Est-ce qu'il y a un esprit cambodgien? Oui, il y a une identité cambodgienne. Donc s'il y a une identité cambodgienne, il y a forcément un esprit cambodgien qui d'ailleurs diffère par rapport à la zone, si on compare... Les compare aux Vietnamiens ou même aux Thaïlandais ou aux Laotiens, c'est vraiment un esprit différent et une identité différente.
Alors pour qui ne connaîtrait pas le Cambodge, la danse classique, c'est une bonne porte d'entrée dans la culture et dans l'esprit cambodgien?
Le Cambodge est représenté par 2 emblèmes. Le premier, c'est les temples d'Angkor, et le deuxième, c'est une danseuse apsara. Voilà, ça veut tout dire.
Alors comment vous est venue l'idée justement de nous faire emprunter la porte du Ballet Royal du Cambodge pour nous guider non seulement dans la culture, mais aussi dans l'évolution historique du royaume?
J'ai eu l'opportunité par l'intermédiaire du prince Teso Sisovath, qui est membre de la famille royale et qui était le bras droit de la princesse Bopadevi, qui elle-même était la fille aînée du roi Sihanouk. Il m'a donné la possibilité d'ouvrir les portes du Ballet Royal pour faire un film sur le ballet, mais pas que sur ça, en fait, sur l'histoire du ballet et à travers l'histoire du ballet, l'histoire du Cambodge. En fait,
ça, c'était le contrat, si j'ose dire, non, à la base, ou c'est vous qui petit à petit êtes...
Alors, déjà, il n'y avait pas de contrat, parce que c'était il m'a parlé juste du fait que la princesse Bopadevi était assez âgée et qu'elle allait faire probablement sa dernière grande tournée et son dernier grand spectacle, et que ça serait intéressant peut-être d'en profiter pour graver ça dans la mémoire collective, graver son travail, parce que c'est une personne emblématique, justement, de la question des arts au Cambodge. Mais moi, après, j'y connaissais rien, très honnêtement, au Ballet Royal, donc j'ai fait des recherches, et j'ai découvert une histoire absolument fabuleuse, formidable, mais qui ouvrait la porte aussi sur de l'universel, c'est-à-dire que ça permettait de raconter l'histoire récente du Cambodge à travers un prisme qui n'est pas le prisme politique comme on adopte systématiquement, mais qui est un prisme artistique. Et en fait, ça change complètement le regard qu'on peut avoir sur ce pays. Et puis, c'était une manière aussi de parler de la question du rapport entre l'art et l'identité. Et je crois que c'est une question importante aujourd'hui.
Alors justement, ce rapport entre l'art, l'identité et singulièrement le Ballet Royal, Soupianout, qui a été élève à l'école de danse du Palais Royal et qui enseigne aujourd'hui à Paris à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, vous en a dit plus dans le film extrait.
Le Ballet Royal résume l'ensemble de la culture cambodgienne, puisque vous avez le chant, la danse, vous avez les motifs hein, qui sont sur les costumes, la poésie, puisque les chants sont en vers. Vous avez aussi la littérature traditionnelle cambodgienne, puisque le répertoire du Ballet Royal est composé d'histoires de mythologie indienne et aussi bouddhique. Donc c'est un condensé de l'héritage cambodgien. Il y a quatre personnages principaux. Le personnage masculin, représenté toujours par un prince. Le personnage féminin, par une princesse. Et deux personnages qui ne sont pas des êtres humains, c'est-à-dire le géant et le singe, dont le représentant est Hanuman, le fameux général dans l'épopée du Ramayana. En dehors de ces quatre personnages, vous avez des êtres fantastiques ou des animaux de la forêt, comme le paon et le cerf.
Et au fur et à mesure de ces explications, Xavier de Lausanne, apparaissent à l'écran les danseuses avec les masques et les costumes qui correspondent aux personnages évoqués par Soupianoute. Alors c'est une scène absolument magnifique, vous les magnifiez en fait, hein, ces danseuses avec évidemment leur masque, leur costume. Vous pouvez nous raconter le dispositif qui vous a permis de tourner ces plans-là ?
C'est pas un dispositif très compliqué en fait, mais c'est surtout un dispositif que je voulais mettre en place pour pouvoir créer de l'admiration.
C'est réussi.
Je vous remercie. Et je trouve que y a un certain nombre de pays dans le monde qui ont subi des traumatismes, qui ont subi des guerres et qui continuent de subir des guerres. Et malheureusement, je trouve qu'on manque d'émerveillement et on manque d'admiration pour découvrir ce que peut être leur culture au-delà du traumatisme, au-delà de la guerre. C'est ce que j'ai voulu essayer de faire.
Alors, vous les mettez sur fond noir, les danseuses. En plus, bon, elles sont en maquillage blanc, donc évidemment, le contraste est très impressionnant. Vous les filmez aussi d'une manière quand même assez particulière, avec une lumière qui met aussi en évidence les dorures, hein, ce côté, ces coiffes brodées d'or, avec ces quelques gestes de danse qui permettent comme ça aux spectateurs de les identifier comme Soupianoute nous les explique en même temps. Alors on est frappé évidemment par la beauté des gestes, et évidemment le titre du film n'est pas fortuit, des gestes qui racontent, mais aussi des gestes pleins de souplesse, de grâce, de poésie. Et pour nous décrire les gestes et les postures, vous êtes tourné vers une grande danseuse et chorégraphe cambodgienne, Sopilin Chem Shapiro. Dans le film, les mots sont sous-titrés. On s'est permis évidemment d'en enregistrer la traduction pour les besoins de la radio.
La beauté de la danse classique cambodgienne est une combinaison de différents éléments. Une des caractéristiques de la danse classique cambodgienne est que les danseurs se tiennent bien droits, en équilibre, et utilisent leurs mains pliées vers l'arrière, leurs bras en hyperextension et leur dos est légèrement cambré. And their back is also slightly arched, the knees bend. Les genoux fléchis, les danseurs semblent attachés au sol, mais la moitié du corps s'élève, atteignant le ciel. Les danseurs sont donc le point de connexion entre la terre et le paradis.
Toute la poésie de la danse classique cambodgienne expliquée dans votre film, Xavier de Lausanne. Alors, il y a un artiste français qui a été très tôt subjugué, fasciné par ses gestes et par ses postures. C'était en 1906, lors de la venue en France du Palais Royal du Cambodge. Cet artiste, c'est l'un des plus grands sculpteurs français de l'histoire, un certain Auguste Rodin. Vous nous racontez ?
Oui, c'est une histoire, on connaît tous l'œuvre de Rodin, mais pas vraiment celle-ci, qui est très étonnante. En 1906, le Ballet Royal était invité, en fait le roi de l'époque, le roi Sisovat, était invité pour l'exposition coloniale de Marseille. Il est venu avec son ballet, ils ont eu un grand succès, ils ont été invités à Paris, ils sont produits dans les jardins du Pré-Catelan, dans les jardins de l'Élysée et au théâtre du Pré-Catelan.
À Boulogne.
Et ça a eu un succès énorme, et donc tout le monde se précipitait pour aller voir les danseuses cambodgiennes, dont Auguste Rodin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un flash, il a eu un émerveillement soudain pour ce geste que personne ne connaissait et qui, lui, pour lui, était vraiment la quintessence de la grâce. Et ce qui fait qu'il les a suivis, il a suivi les danseuses la semaine qui a suivi lors de leur retour à Marseille. Et c'était un week-end, alors il a acheté des papiers d'emballage et ce qu'il avait sous la main. Et il a fait à peu près 150 dessins.
En quelques jours.
En quelques jours, et qui sont aujourd'hui conservés dans les archives du musée Rodin. Et ces dessins, en fait, c'est très important parce que marquent le début d'une transversalité entre le Cambodge et la France à travers, justement, son ballet royal.
Alors, c'est vrai que c'est impressionnant parce que dans le film, on voit une photo, d'ailleurs, hein, où Rodin est assis sur le banc avec son pinceau à la main dans un parc en train de dessiner une danseuse qui évolue devant lui. Et ces dessins, donc conservés au musée Rodin, vous en êtes servi aussi dans le film?
Oui, parce que en fait, Rodin a été le premier artiste internationalement reconnu à poser un regard sur les danseuses du Cambodge et sur le geste, sur la gestuelle de la danse classique cambodgienne. Et Rodin n'était pas n'importe qui. Et donc, ça a eu un impact très fort. Et j'ai voulu, à travers ces scènes où, effectivement, je pose une danseuse, je demande à une danseuse, une jeune danseuse d'aujourd'hui, de reproduire le geste que Rodin a dessiné. Donc, je les mets le dessin et à côté la danseuse. Et elle reproduit le même geste. Et c'était fascinant de voir à quel point, avec énormément de naturel, elle regardait le dessin et, en fait, en quelques secondes, elle reproduisait ce geste qui est un geste antique et qui était celui qui existait à l'époque de Rodin.
Et ces dessins, ils ont aussi servi pour la création du spectacle Métamorphose, donc un siècle plus tard, hein, un spectacle imaginé, vous en parliez tout à l'heure, par la princesse Bopa Devi, et dont le film montre aussi le travail de création. C'est autour de ça que le film débute. La princesse qui est décédée aujourd'hui, donc c'est effectivement son dernier spectacle. Elle intervient à plusieurs reprises dans votre film. C'est une icône, en fait, hein, la princesse Bopa Devi, Xavier Dolezal.
Oui, c'était surtout une icône dans les années 60. C'était une femme extrêmement belle, qui était une danseuse merveilleuse. C'était la danseuse étoile du Ballet Royal. C'était la fille du roi, donc la princesse. Elle avait tout pour elle. Elle était actrice de cinéma. Enfin bon, elle cochait toutes les cases. Et c'était, dans les années 60, vraiment une personnalité extrêmement connue, pas seulement au Cambodge. Donc c'était véritablement une icône. Et après la période Khmer Rouge, elle est revenue en 91 au pays, où elle a repris la direction du Ballet Royal. Et quelques années après, elle est même devenue ministre de la Culture. Donc c'est une personnalité dans le monde des arts qui est extrêmement importante et respectée au Cambodge.
Et donc son dernier spectacle, Métamorphose, vous le mettez aussi vraiment au cœur de votre film. On voit les préparatifs, les répétitions, les discussions entre la princesse et le styliste à propos des costumes. Le styliste d'ailleurs qui va à sa demande au musée royal pour étudier à la loupe, c'est vraiment le mot d'ailleurs, au sens propre, hein, les costumes anciens et chercher l'inspiration dans la tradition. Vous filmez aussi les scènes d'habillage dans les coulisses de plusieurs spectacles. On voit les danseuses enfiler leurs masques. Chacune a son propre costume, son propre masque.
Non, les costumes n'appartiennent pas forcément à une danseuse, mais en tout cas, elle a été recherchée, les techniques qui existaient pour son spectacle, les techniques qui existaient, à la fois les techniques de broderie de confection des costumes et en même temps les techniques de danse qui existaient à l'époque de Rodin et qui ont disparu avec le temps, puisque le geste et le ballet royal s'est considérablement modernisé. Donc c'était des choses anciennes qui avaient disparu avec le temps et qui sont réapparues avec son travail et le travail aussi des maîtres et des maîtresses de danse qui l'entouraient.
VMDN sur RFI avec Xavier Delauzanne pour son film La beauté du geste qui est sur les écrans français depuis hier et qui nous fait donc découvrir le ballet royal du Cambodge, retrace son histoire à travers la grande histoire, à travers l'histoire du pays, l'histoire du Cambodge lui-même, et tous ces récits-là s'entrecroisent, hein, Xavier Delauzanne, dans un va-et-vient permanent entre le présent et le passé. Et quand on parle de l'histoire du Cambodge, il y a un lieu qui s'impose immédiatement, c'est évidemment Angkor et Angkor Wat, le grand, plus grand temple du monde, qui figure d'ailleurs sur le drapeau du royaume du Cambodge. Vous teniez à tourner là-bas, c'était une évidence.
Ah bah oui, c'est une évidence, puisque à Angkor, on trouve sur les bas-reliefs d'Angkor les apsaras.
Alors c'est quoi les apsaras ?
Alors les apsaras, ce sont des nymphes célestes qui ornent les bas-reliefs, énormément de bas-reliefs des temples d'Angkor.
C'est dans la mythologie hindoue, hein, c'est donc c'est pas spécifiquement cambodgien.
Non, c'est pas spécifiquement cambodgien, puisque effectivement il y a un héritage. Le mythe fondateur du royaume du Cambodge, c'est le Ramayana, donc, qu'on retrouve aussi dans différentes zones de l'Asie du Sud-Est et aussi en Inde. Ces apsaras, c'est intéressant parce que, en fait, tous les Cambodgiens, aujourd'hui, la danseuse, on la nomme la danseuse apsara, puisque je pense que c'est un héritage justement des temples d'Angkor, alors que ce n'est pas un héritage en fait des temples d'Angkor. La danseuse apsara a été créée de toutes pièces dans les années 60. Avant, le ballet royal était confiné à l'intérieur du palais royal, et donc elle était composée que de femmes, mais qui n'étaient pas du tout habillées ou maquillées comme les apsaras des temples d'Angkor. Il n'y avait pas de lien direct, si ce n'est spirituel, on va dire, entre la danse et du ballet royal et les temples d'Angkor. En fait, l'apsara a été créée notamment par la reine Kosamak, donc la mère du roi Sihanouk, qui dans les années 60 a décidé de moderniser le ballet royal, de rendre les danseuses plus séduisantes. Et donc, elle a été chercher les costumes et les apparats des bas-reliefs des apsaras pour justement habiller ses propres danseuses et en faire un instrument, ce ballet royal, un instrument de rayonnement du Cambodge, donc dans la période, ce qu'on appelle la période du Sangkum. Et c'est ça qui a créé la danseuse apsara.
Et ce rayonnement-là, il est passé aussi par le cinéma, avec un film français que vous évoquez dans le film L'oiseau de paradis de Marcel Camus, qui voulait d'ailleurs des danseuses en costume d'apsara. Et qui était la grande danseuse qui a joué dans le film ?
Mais, oui, en fait, Marcel Camus a été le tout premier. C'est-à-dire que cette histoire de l'apsara, elle part justement de Marcel Camus, qui voulait faire jouer la princesse Bhopa Devi, qui avait 15 ans à l'époque, dans son film. Et c'est lui qui est le tout premier, a dit « Je vais faire une scène dans les temples d'Angkor et je voudrais que la danseuse soit habillée comme une apsara. » C'était la première fois au Cambodge qu'on demandait ça.
Et c'est suite à ça... Donc le costume a été fait spécifiquement pour le film.
Exactement, le costume a été fait spécifiquement pour le film, et c'est après où la reine Kosamak a généralisé ça et a créé une danse qu'on appelle la danse des apsaras, qui est très connue au Cambodge. Et ensuite, le roi Sihanouk, qui se voulait cinéaste, a fait son premier film qu'il a appelé Apsara, en faisant jouer sa fille dedans en tant que rôle principal. Et c'est comme ça que cette aura de la danseuse apsara est née.
Alors, la reine Kosamak a effectivement joué, si j'ai bien compris votre film, un rôle très important dans la popularisation, on va dire, du ballet royal du Cambodge, mais aussi dans sa modernisation, parce que jusqu'à son règne, c'était essentiellement des danseuses, même exclusivement des danseuses et pas des danseurs au sein du ballet royal du Cambodge. Là, elle a introduit les hommes.
Oui, alors en fait, le grand changement, c'est qu'avant, Le ballet royal, à l'intérieur du palais royal, n'était pas un outil de divertissement. C'était un outil d'intercession, c'est-à-dire que c'était un rituel. Les danseuses intercédaient auprès des dieux au profit du roi. Et elles étaient d'ailleurs fardées de blanc, etc., parce qu'elles ne devaient pas montrer d'expression humaine à cette époque-là. Il n'y avait pas d'émotion, en fait. C'était vraiment... il y avait une charge spirituelle très, très forte. Alors que dans les années 60, l'idée, c'était en faire un outil de divertissement pour le peuple, pour les gens, donc le faire sortir du palais royal, et donc en faire un instrument aussi de rayonnement national. À chaque fois qu'il y avait des invités, on leur montrait le ballet royal. Et là, il fallait rendre les danseuses beaucoup plus séduisantes, suivant les codes de l'époque, de les 60. Et c'est pour ça que donc elle a créé ces nouveaux costumes tirés des bas-reliefs. C'est ça, en fait, le paradoxe, c'est que la reine Koh Samak, donc la mère du roi Sihanouk, a été chercher les apsaras extrêmement anciennes des bas-reliefs, qui sont des représentations divines, hein, c'était pas des représentations humaines. Et c'est pour ça qu'elles étaient assez dévêtues, etc., avec des très grandes chevelures, des grandes parures, etc. Et en fait, elle s'est inspirée de ça pour pouvoir justement moderniser ce ballet et rendre la danseuse séduisante et surtout accessible pour les gens.
Donc moins de maquillage blanc. Donc, ce qui permet
plus de maquillage blanc, mais elles avaient les cheveux courts au temps du Palais Royal. Elles n'étaient pas du tout séduisantes, hein, au temps du. Et donc, elle a fait rallonger les cheveux, mettre des fleurs dans les cheveux, avec des vêtements beaucoup plus cintrés, etc. Et donc, ça, on va dire que ça a décuplé la grâce du geste, parce que ce n'était plus que la grâce du geste, mais c'était aussi la grâce de la personne.
Et puis des danseurs pour le rôle du singe.
Oui, vous avez dit ça, effectivement. Oui. C'est la première fois que c'est la reine Koh Samak donc, qui a décidé d'attribuer un rôle aux hommes et elle leur a attribué le rôle du singe. Il faut y aller par étapes, hein. Mais c'est parce que c'était un rôle assez physique. Et donc, ça correspondait mieux aux hommes. Et puis après, depuis, il y a évidemment, les hommes jouent aussi d'autres rôles, que ce soit des génies ou des animaux de la forêt, etc. Mais les rôles principaux dans la tradition du ballet royal restent quand même attribués aux femmes. Et ce sont toujours des femmes qui jouent le rôle du prince et de la princesse.
Alors, vous expliquez vraiment hein, donc, que cette tradition du ballet royal du Cambodge s'inscrit pleinement dans la modernisation du pays, notamment dans la période qui suit l'indépendance en 1953. Et puis, vous racontez aussi les problèmes, mais c'est rien de le dire. Hein. Arrive après la division, les combats, les bombardements, la guerre civile, dans le contexte de guerre froide que l'on connaît, l'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh en avril 1975, et on peut dire que les artistes, ils ont payé un lourd tribut à ce moment-là, et notamment les danseuses.
Bah oui, c'est terrible, hein. Vous vous rendez compte, 90% des artistes ont été tués pendant la période Khmer rouge. 90%, il en restait 10%. Et ce qui est très émouvant dans cette histoire, très touchant, c'est que ce sont ces 10% d'artistes restants qui ont remonté complètement l'activité artistique au Cambodge, que ce soit la danse classique Khmer ou que ce soit la Kankrol, par exemple, qui est du théâtre, et aussi toute l'activité folklorique, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de folklore, notamment dans les campagnes cambodgiennes. Et donc, ce sont vraiment ces artistes, ces maîtres et maîtresses de ballet survivants qui, dans les années 80, ont complètement été, ont remonté, en fait, à la fois des écoles, un peu partout dans le pays, et ce qui était une mission absolument essentielle pour eux, pour essayer de retrouver leur identité. Ça, c'est vraiment parti de la recherche identitaire suite à un traumatisme d'une violence extrême.
Oui, traumatisme extrême, effectivement, et vous nous faites bien mesurer la souffrance des années de terreur à travers plusieurs témoignages très émouvants hein, dans le film, mais aussi avec cette archive de reportages télévisés.
Une femme pas comme les autres dans la foule des 120 000 réfugiés cambodgiens qui s'entassent aux frontières de la Thaïlande, Madame Van Savai, première étoile du ballet royal de Phnom Penh. Avec ses 10 litres d'eau par jour et sa ration de riz, elle vit comme les autres réfugiés, devant la tente de fortune qu'elle partage avec son mari, la bicyclette, prête à partir à tout moment, dès que les bombardements se rapprochent.
Et vous avez des nouvelles de votre famille ?
Non, pas de nouvelles, depuis 4 ans déjà.
Ici, qu'est-ce que vous allez faire si la guerre reprend ?
Ici ?
Si les bombardements reprennent dans le camp, qu'est-ce que vous faites ?
Je partis encore, ce qu'on m'a permis.
Avec votre bicyclette qui est derrière vous ?
Oui, avec mon bicyclette.
Mais si Madame Van Savai est un personnage hors du commun parmi ses réfugiés, c'est qu'elle a voulu continuer dans l'exode son école de danse pour tenter de redonner confiance à ceux qui, avec elle, se sont enfuis du Cambodge. À l'heure où la résistance khmère vient de subir l'une de ses plus dures défaites, l'école de ballet de Madame Van Savai reste aujourd'hui une lueur d'espoir pour les réfugiés cambodgiens.
assez extraordinaire, effectivement, ce reportage d'archives. Et Juan Savaille qui dit aussi une phrase très forte dans votre film, Xavier de Lausanne, l'art ne doit jamais mourir. Et il était toujours aussi dans la tête et même dans les mains d'une autre de vos témoins, Pen Sukwon, maîtresse de ballet, qui a été expulsée de Phnom Penh alors qu'elle était enceinte. Elle a même mis au monde un peu plus tard son enfant dans une cabane, dans une forêt. Et un peu plus tard, elle a été recueillie par un oncle et elle n'a jamais cessé de penser à son art.
Ma main s'était infectée, avait beaucoup gonflé, je pleurais et je disais à mon oncle, ma main est fichue, je ne pourrai plus danser. Et il me disait, on n'a pas de riz, on meurt, mais toi tu ne penses qu'à danser. Je pensais sans arrêt à la danse et je l'aimais malgré tout, j'aimais toujours la danse, j'espérais la reprendre. Même en bêchant la terre pendant les pauses, j'assouplissais mes mains, après le travail, j'exerçais mes doigts en me cachant.
Voilà, il résume beaucoup de choses, je trouve, ce témoignage. Il y a vraiment en plus énormément l'émotion aussi. Elle le raconte, hein, l'émotion qui était la sienne quand elle a pu à nouveau danser en 91, hein, au moment du retour au pays du roi Sihanouk. Alors la danse a été un moyen, on le disait, Xavier de Lausanne, pour le Cambodge, de panser les plaies, d'atténuer les traumatismes. C'est un vrai moyen de résilience, en fait.
Ben oui, tout à fait, oui. Et ça l'est toujours aujourd'hui, hein, parce que la société cambodgienne est toujours dans un processus de reconstruction. Les traumatismes vont mettre des générations, en fait, à s'estomper. Et donc, pour ce processus de résilience, il faut des outils. Et l'art est un outil majeur pour ça.
Et c'est un élément clé aujourd'hui de l'identité cambodgienne, moderne, contemporaine, en essayant justement de dépasser justement ce traumatisme.
Ben oui, parce qu'en fait, l'identité, elle ne passe pas par la politique, elle ne passe pas non plus forcément par le business, mais elle passe par l'activité culturelle. Donc ce n'est pas forcément que le ballet royal ou la danse classique mère, hein. c'est aussi la peinture, c'est aussi la danse contemporaine d'aujourd'hui, c'est aussi le folklore, comme je disais, donc c'est toutes ces formes d'art qui permettent aux uns et aux autres, et notamment à la jeunesse, de savoir qui ils sont, d'où ils viennent et quelle est leur propre identité.
Alors depuis 2008, Xavier de Lausanne, le Ballet Royal du Cambodge est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé ?
Eh bien, en fait, c'est très important, je vous parlais de transversalité, c'est-à-dire que des arts qui disparaissent dans le monde aujourd'hui, il y en a certainement plein, mais ils disparaissent parce qu'ils ne sont pas connus en dehors de leurs frontières. Et le fait de reconnaître un art, notamment par un organisme comme l'UNESCO, permet justement que cet art survive en cas de crise majeure ou en cas de modernité galopante, on va dire. Ça sert à ça, en fait, l'inscription, et notamment l'inscription à l'UNESCO.
Alors, c'est une garantie aussi pour l'avenir et pour la pérennité de la danse classique au Cambodge ?
Oui, c'est en tout cas une garantie pour continuer de le faire rayonner. Je voudrais dire que le ballet royal aujourd'hui, il n'existe plus. Il a disparu avec la dernière dépositaire de cette tradition, qui était la princesse Bopa Devi. Aujourd'hui, c'est devenu un label d'excellence qui est entre les mains du ministère de la Culture et qui tient beaucoup en fait à ça, pour ne pas le confondre avec justement des folklores ou des danses classiques qui n'ont pas forcément la qualité justement de la danse issue du ballet royal. Donc aujourd'hui, le ballet royal, ce n'est plus une troupe, c'est un label d'excellence et on peut appeler spectacle du ballet royal que si ce sont des spectacles avec des danseurs et des danseuses issus, diplômés de l'université royale des beaux-arts du Cambodge et validés par le ministère de la Culture.
Et c'est le cas de Kosson et Nalice, les deux danseuses qui constituent un peu nos compagnons de route finalement.
Exactement, et qui aujourd'hui enseignent au sein de notamment de l'Université royale des Beaux-Arts.
Et donc la transmission, elle est assurée aujourd'hui. Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir.
En tout cas, elle est justement contrôlée, maîtrisée. Et c'est une question très importante aujourd'hui pour le gouvernement cambodgien et pour le ministère de la Culture.
Merci beaucoup Xavier de Lausanne d'être passé nous voir dans VMDN. La beauté du geste, c'est le titre de votre film que l'on peut donc d'ores et déjà découvrir sur les écrans français. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Say ya boom boom chow. Sigo sigo na le zoom zoom now. Luku luku want to make man drown. So give me kiss neko chum chum wow. When you wave when you zoom zoom zow. Na luku luku wewe si your level zow. See, ooh, your body, baby, baby, your body.
teke, tepe tepe, sexy west, nyepe nyepe, no ma pepe, nyani wege, you know I like when you go. Die for this, you are overload. Ilege jo 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 jekindo. So mama yo 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 dani yo. Teke teke, tepe tepe, sexy west, nyepe nyepe, no ma pepe, nyani wege, you know I like when you go.
Dawn Revani dans VMDN sur RFI, extrait de la playlist RFI de ce mois de mars. Au Bénin, un jeune photographe, Franquin Toundé Dedji, expose en ce moment au Culture Forum Sud-Nord, un espace artistique implanté à Cotonou et fondé par l'Allemand Stéphane Köhler. Un travail de fin de résidence qui évoque l'identité de sa région d'origine. Notre correspondant Jean-Luc Aplogan est allé y faire un tour.
Look de jeune branché, Franquin a rassemblé le jour du vernissage de son exposition une cinquantaine d'invités, artistes, diplomates, acteurs culturels et riverains. Ils ont pu admirer 12 photos exposées dans deux pièces de la résidence, issues de son savoir et de son imagination. Il a présenté des clichés en couleur et des clichés en noir et blanc. Les 12 œuvres sont encadrées et fixées au mur. Autoportraits, scènes de vie, identité, origine, les clichés ont plu aux visiteurs en premier lieu à sa marraine, fière du travail de son filleul. Témoignage de Styline Agbazaou.
Il nous a fait voyager, il nous a fait découvrir le monde à sa façon, avec des pièces qui parlaient vraiment de lui et surtout de sa culture. Et je dirais que ce qu'il est important de retenir chez Franquin, c'est qu'il n'oublie pas d'où il vient. C'est vraiment quelque chose à saluer.
Admirative aussi, Louise Aladaye, bénino-allemande, qui encourage Franquin et le fondateur de l'espace culturel Cultuforme.
Un jeune photographe avec un langage visuel très intéressant. Il semble qu'il associe le quotidien à des contextes historiques. Je trouve que l'initiative de Stéphane Köhler d'encourager et de soutenir des jeunes artistes, c'est vraiment formidable parce que sans cet engagement, je n'aurais certainement pas découvert le travail de Franquin aussi facilement.
Franquin a travaillé en résidence pendant 2 ans pour son exposition. Il est le premier bénéficiaire de ce programme et il confie avec fierté qu'il s'agit de son premier solo. D'où vient son amour pour la photo? L'histoire commence tôt, très tôt, il nous la raconte.
J'ai eu goût à la photographie depuis que j'ai eu 3 ans. Ma maman adore la photo au studio et chaque dimanche j'allais au studio avec elle. Quand j'étais petit, pendant les vacances, j'essayais de fabriquer l'appareil photo avec des boîtes d'allumettes. Quand j'allais à l'école, je venais au cours avec un appareil photo et quand le professeur écrit au tableau, je prends la photo et arrivé à la maison, moi je recopie. C'était mon jeune âge. En 2015, j'ai eu la chance de rencontrer Stéphane. Ils ont organisé un atelier avec Zané Lemouroli, Lindeka Campi et plus d'autres. Donc c'est comme ça, la passion est venue complètement et je me suis dit, bon voilà, il faut que je bosse dans ce milieu.
Et Franquin a montré son envie et son sérieux. Stéphane Köhler, organisateur de l'atelier, confirme, il était le meilleur stagiaire. Une fois retenu, il pouvait démarrer son travail, mais avec une feuille de route, disons les conseils de Stéphane Colleur, les voici.
Développer son savoir théorique sur la photographie. Et aussi, on l'a encouragé de faire un choix. Si tu veux être photographe commercial ou photographe artiste.
C'est avec passion qu'il présente chaque œuvre aux visiteurs. Ses clichés parlent tout seuls, en effet. Exemple, la maison familiale de sa mère sur pilotis, totalement en ruine et que les gens n'abandonnent pas, montre leur attachement à leur terre. Une autre photo, une moto et son propriétaire transporté par une pirogue pour traverser le fleuve. Le pilote est un gamin qui fait avancer la pirogue sans voile, sans moteur, juste avec un bambou. C'est la résilience, commente fièrement Franquin. Franquin ne vous dit pas seulement ce qu'il a photographié, il vous dit aussi comment il les a immortalisés. Franquin est un photographe prometteur avec ses valeurs et sa philosophie.
Savoir garder sa bouche, réfléchir sur soi-même et laisser le temps juger. J'essaie de travailler dans l'ombre. Un jour, les gens vont découvrir ce que je fais.
L'exposition ferme ses portes le 24 mars, dans une dizaine de jours.
Reportage de Jean-Luc Aplogan à Cotonou dans VMDN, c'est jeudi. Et le jeudi, vous le savez, c'est Café Polar.
C'est l'heure de Café Polar.
Bonjour Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous.
Et cette semaine, votre Café Polar met en lumière le roman noir sur le continent africain avec l'auteur gabonais Jenis Otsiemi, dont le nouveau livre intitulé « Au ras des hommes » vient de paraître aux éditions Les Lettres Mouchetées.
Oui, c'est un écrivain que l'on a découvert en France en 2009 avec « La vie est un sale boulot » et qui depuis publie des polars tout à fait réjouissants. D'abord par leur écriture et leur style, nous y reviendrons, et avec aussi des intrigues très ancrées dans la vie sociopolitique du Gabon et de Libreville en particulier, où il vit et où il écrit. Mais curieusement, c'est l'un des rares auteurs de polar sur le continent. Alors comme il était invité au Salon du Livre de Genève il y a quelques jours, dans le cadre d'une scène africaine très riche et où je suis allée, je l'ai rencontré sur place et je lui ai demandé pourquoi le genre était si peu répandu dans son pays. Jenis Otsiemi.
Disons qu'il y a des lecteurs qui lisent ce genre de littérature, sauf qu'il n'y a pas une grande offre. En fait, au début, je suis venu dans cette littérature par effraction. En fait, il y a quelques années, j'ai publié un livre assez lyrique dont le thème était l'altérité. Et j'ai fait lire ce livre à mes amis au quartier parce que j'ai grandi dans un bidonville à Libreville. Et là, ils m'ont dit, tu écris comme un mec qui a grandi dans les grands quartiers. Comment tu peux traduire notre vie de bidonvillois dans un livre? Et c'est à ce moment que le polar s'est imposé à moi comme le genre qui pourrait rendre visible les gens de bidonville. Donc voilà pourquoi je dis que je suis venu au polar par effraction. Donc il y a toujours cette quête du monde noir, de l'obscur, de l'interlope qui m'interpelle. Je ne sais pas parler sur l'amour, je ne sais pas écrire sur le bonheur. J'aime toujours aller chercher l'autre côté. Vous savez, vous avez eu peut-être la chance d'arriver à Libreville, au bord de mer. C'est, lorsque vous arrivez, c'est une carte postale avec les bureaux administratifs, gouvernementaux. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. C'est le continent. Donc j'aime fouiller l'arrière-cuisine.
Alors, il y a un instant, vous nous disiez, Catherine, que Jenis Otsiemi s'appuyait sur des faits réels et décrivait en creux la situation politique de son pays, le Gabon. Est-ce que c'est le cas aussi dans ce dernier roman, Au ras des hommes?
Oui, à un détail près, c'est que l'auteur a fini d'écrire le roman avant le coup d'État du 30 août dernier. Donc, dans sa fiction, Ali Bongo était encore président.
On ne peut pas tout prévoir.
Ce qui n'empêchait pas Jenis Otsiemi de parler de dictature avant que ce gouvernement ne soit renversé, comme tout le monde l'espérait.
On subit ce pouvoir depuis un demi-siècle, donc il y avait une lassitude. On savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, on ne savait pas quoi. En fait, on avait une expression souvent, au quartier on rigolait. Lorsqu'il y a eu des coups d'État au Niger, au Burkina Faso, au Mali, on se disait, mais on prie Dieu au Gabon et la foudre tombe ailleurs. Parce que nous, on se disait que par voie électorale, on ne pouvait pas chasser Bongo. C'est soit par la rue, soit par un coup d'État, et c'est arrivé.
Et aujourd'hui, alors, quelle est la situation au Gabon, selon vous?
La situation est... Bon, le nouveau pouvoir s'est installé. Ce n'est pas un pouvoir militaire en tant que tel. En fait, c'est un putsch. Même si les autorités elles-mêmes expliquent que c'est un coup de libération, mais c'est un putsch comme tous les autres. Alors, le nouveau président s'est installé. Il compose avec la société civile et il compose aussi avec les anciens membres du parti au pouvoir. Et ça, ça passe mal dans l'opinion nationale.
Alors revenons au roman à présent, Catherine. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette nouvelle fiction ?
Tout simplement. Le rythme, la langue, les personnages, le regard caustique de l'auteur sur le monde qu'il décrit vraiment sans filtre. Et puis une intrigue trépidante, puisque le roman s'ouvre sur une scène spectaculaire, une fusillade en pleine rue, avec un tireur fou dans une voiture qui s'en prend aux passants. Il y a une quinzaine de morts, beaucoup de blessés. Et avant d'être arrêté, l'homme finit par se suicider. Sauf que le tueur n'a pas du tout le profil habituel d'un terroriste et l'affaire prend une autre tournure. En tout cas, c'est un fait divers terrible sur lequel enquêtent deux policiers, Kumba et Oula. C'est un duo qu'on avait déjà rencontré dans les romans précédents de Janice Otsiemi. Deux hommes plutôt sympathiques, efficaces, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de magouiller, de racketter. Bref, hélas, totalement corrompus.
C'est à l'image de ce que l'on vit dans la société gabonaise. À Libreville, vous ne pouvez pas faire un kilomètre sans tomber sur un barrage de policiers ou de gendarmes. Et ça finit toujours par de l'argent. Vous savez comment on appelle les policiers à Libreville? Les mange-mille. Parce qu'ils sont habitués à ce qu'on donne un pot de vin, 1000 francs. Donc c'est le tarif le plus basique. Donc 1000 francs et du coup, c'est installé dans une société comme la nôtre, comme un fin. La corruption au Gabon, elle commence du plus bas jusqu'en haut. C'est une sorte de fatalisme. Et moi, en tant qu'écrivain, j'observe et je décris. Mon propos n'est pas de dénoncer, en fait. Mon propos, c'est de regarder la société et de donner mon regard.
Et que dit la police gabonaise quand elle lit vos livres?
Quelques policiers, des voisins qui ont eu accès à ce livre, parfois on rigole, parfois ils me font des menaces un peu voilées. Donc, du coup, si bien que comme j'ai une voiture, donc je suis presque à jour pour ne pas avoir affaire à eux. Donc c'est un peu ça quoi.
Bon, visiblement, on l'a compris, un tableau très réaliste du Gabon dans ce livre, qui pointe donc quelques dysfonctionnements de la société, mais toujours avec un ton ironique. On a bien perçu l'humour de l'auteur à l'instant, Catherine, et une langue aussi, une langue qui vous a charmé.
Oui, c'est merveilleux de lire Janice Otsiemi et d'entendre cette langue magnifiquement régénérée par des expressions, des tournures de phrases, du vocabulaire. C'est une source inépuisable. Alors, je vous donne quelques exemples.
Allez-y.
Le type resta planté devant l'entrée du bar, Luca, de gauche à droite, comme s'il se sentait épié. Luca, ça veut dire regarda. Et puis plus loin, la rue Blaquet se tordait le cou en un cul-de-sac. Blaquet, c'est goudronné. Ou encore, ils montèrent dans la voiture et tirèrent leur corps, s'en allèrent sur les chapeaux de roue. Et enfin, il n'avait pas de slip sur sa bouche. En d'autres termes, ils disent ce qu'ils pensent. Et c'est comme ça à toutes les pages. Alors moi, je trouve que c'est merveilleux. Il faut se laisser porter par la langue. Néanmoins, il y a quand même des explications à un glossaire pour les Européens.
Vous savez, pour un lecteur occidental, ça peut paraître exotique. Ça ne l'est pas. En fait, c'est une langue que les jeunes utilisent. Moi, mon mérite à moi, il ne me revient pas. Mon mérite à moi, c'est d'avoir fait de cette langue une sorte de littérature. En fait, je l'ai transformé en langue littéraire. Vous savez, le français parlé en Afrique, il est très différent de celui qu'on parle en Europe. Vous allez au Cameroun, il y a une créativité lexicale et linguistique. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est la même chose avec le Nouchi. Donc c'est une manière à nous, vous savez, la langue pour nous, la langue française aujourd'hui, pour peut-être nos aînés, c'était un don de la colonisation. Pour nous, qui sommes nés après les années 60, c'est notre langue maternelle. Elle n'est pas la nôtre, elle a une histoire qui n'est pas la nôtre. Comment rendre vivante une langue qui n'est pas la vôtre? On la torture, on joue avec elle. On crée beaucoup de mots, vous savez. Et l'actualité nourrit beaucoup notre imaginaire. Lorsqu'on ouvre la télévision, les infos, Au Pakistan, il y a toujours des guerres, à l'Afghanistan. Et du coup, un bandit tout ce temps chez moi, c'est un quartier coupe-gorge. Vous voyez comment nous jouons avec les mots. Et ça, ça dit quelque chose de notre société. Et moi, j'ai le mérite d'utiliser cette langue-là pour en faire langue littéraire.
Une langue française rayonnante qu'on n'a pas fini de lire puisque les éditions Les Lettres Mouchetées, qui sont basées à Pointe-Noire, au Congo, au Brazzaville, mais avec récemment un pôle à Kinshasa et qui publie ce roman gabonais au ras des hommes, annonce développer une collection spéciale polar dont mon petit doigt m'a dit que Janice Otimi pourrait la diriger.
Intéressant, effectivement, à suivre. Effectivement, Janice Otimi, qui, on l'a compris, n'a pas non plus de slip sur la bouche. Merci Catherine. Votre invité demain, puisque demain c'est vendredi, votre invité dans Littérature sans frontières.
Je reçois Victor Laszlo, chanteuse, comédienne, elle est aussi écrivaine et vient de publier un nouveau roman intitulé « Ce qui est pour toi, la rivière ne l'emporte pas », le parcours d'une jeune esclave de la Martinique jusqu'à Paris au moment de l'abolition de l'esclavage.
Quant à nous, nous recevrons le rappeur et chanteur afro-soul hip-hop ivoirien T.U.I. C'est ainsi qu'il se présente lui-même. Il vient nous dévoiler son nouvel album « Grande ce monde », 17 titres peuplés d'afrobeat, de rap poétique, de mélodies africaines dans une afrofusion métissée qui respire la joie de vivre.
Quand tu vois, Jéhika, Dignier, en coin.
Moi, mon blâme, je suis à plaider en agranou. Moi, mon blâme, je suis à plaider à ma piano.
Imagine que c'est ton histoire, tu te lèves tous les matins pour mieux y croire. Les perles, les diamants à portée de vue, mais ils refusent tous de le croire. Dans notre art, dans les yeux de mes gens, je vois de l'or qui brille et brille. Je connais par cœur cette vision, suis cette lumière qui éclaire. Underground, je sais pas ce qu'ils appellent underground. Je vois de la vie dans nos sols. Underdog, passer le message underdome, Abidjan de le Saint. Wow, wow.
Moi, mon blâme, je suis à blédé underground. Moi, mon blâme, je suis à blédé à ma piano.
C'est le sol qui veut trouver le bon, qui va oser l'envol en écumant les fonds. Ils disent qu'on ne brille pas, qu'on ne crée pas les fonds. Et pourtant, tout est dark quand je m'écarte de leur champ. Je suis le petit garçon, petit binoclard, couvert de l'onction qui dévoile les trésors aux âmes. Je suis l'alternative à l'artiste, je suis l'artiste qui a pas besoin d'artifice pour bim. Parfois on dort dans la pousse pour apporter la lumière, parfois on plonge dans la boue pour être au cœur des merveilles. La musique le permet, elle est pour l'âme un aimant, elle est une arme qui aime tant quand elle est libre, elle est grande. Qu'est-ce que t'attends pour te laisser tenter, pour tout laisser tomber? Le monde te met à mal, donne-lui un grain. Un tien, vaut mieux que de bien donner à regret. Pourquoi plus faire le choix du high, vas-y, dis-moi, hey.
Et si moi, l'aurait dit, mais brada, African girl, bla, ici, hama, piano, cowboy, ici, brada, I need a rockstar, n'y a que dit, que dit, que dit, que dit, y'a un gamme underground, a fait un des trompes, dit, que 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 dit, que
Underground, T.U.I. qui sera donc avec nous demain dans Vous m'en direz des nouvelles dans une poignée de secondes. Le journal en français facile sur RFI. À demain et Vous m'en direz des nouvelles.